de inviter à me rejoindre Elisabeth Graville. Et je vous demande de l'applaudir. Comme ça, on se chauffe un petit peu. Muséonovation. Ensuite, Catherine Seis de Excurio. Je vous demande également de l'applaudir. Merci beaucoup. Alexandre Roux de Lucid Reality et Unframed Collection. Et enfin, Balthazar Auxiètre. S'il est là, non, il n'est pas là, pas encore. Peut-être il va nous rejoindre. Non, il n'est pas là. Je le connais, mais je ne le vois pas. Eh bien, merci beaucoup d'être là. On a deux micros, hein. Oui. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation et surtout de me donner l'opportunité personnellement de me replonger. Et voilà, dans la salle, j'ai revu un ancien collègue de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On était, il y a très très longtemps, on faisait un séminaire qui s'appelait le séminaire Avatar à la BNF. Et on était en 2005 peut-être, bien avant. Et on explorait justement ces métavers, on explorait surtout Second Life, qui était un moyen pour nous, à travers l'avatar. Jaercio l'a dit, hein, cette question de l'au-delà et cette question aussi de la spiritualité, parce que finalement, avatar a est une notion qui vient du sanskrit. Et donc l'idée, c'était d'avoir une certaine réincarnation, parce que ces mondes virtuels, ces métavers, nous permettent d'aller au-delà, bien au-delà de ce qu'on peut vivre dans la vie. Et pour commencer à introduire un petit peu tous ces enjeux et ces questions, je voulais justement donner la parole à Elisabeth Graville pour un petit peu nous faire une sorte d'Elisabeth, si tu veux prendre le micro qui est devant toi, pour voilà, nous parler un petit peu de ce métavers avant même d'arriver à l'IA, un petit peu, je crois qu'elle est déjà, il est déjà allumé. Essaye. Non, je te donne le mien et j'allume l'autre. Tiens, vas-y. Tiens, il est allumé. Oui, tiens. Et voilà, de nous faire un petit peu une remise en perspective de ces métavers par rapport à ces technologies. Est-ce que le métavers ne serait pas une évolution du web tel qu'on l'a connu ? Comment tu replaces, toi qui es une spécialiste des technologies, l'arrivée de ce métavers qu'on connaît justement depuis Second Life et tout ça? Comment on...
Alors là, pour me prendre au dépourvu, je pensais parler IA et métavers.
Oui.
Si on fait un peu une archéologie, il est évident que cette grande période qu'on a connue, fin 2019, 2020, 2021 et 2022 surtout, était une troisième étape en fait du web. Après le web 1, où on se contentait de finalement regarder sans interagir, le web 2, avec tous les réseaux sociaux, on interagit. Soudainement on peut donner son avis. Le Web 3, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, rentrer dans un espace et développer beaucoup plus cette interaction et surtout reprendre la main par rapport aux plateformes qui possédaient finalement le discours avec leurs algorithmes sur les réseaux sociaux. Et c'était un moyen aussi de reconsidérer une nouvelle économie qui était pilotée entre autres par les NFT, mais pas que, pour pouvoir permettre à chacun effectivement de pouvoir créer son univers, évoluer et pourquoi pas inventer de nouveaux modèles économiques beaucoup plus indépendants des plateformes. C'est vraiment d'une manière très très synthétique ces trois étapes. Et les métavers s'inscrivaient à la fois dans l'aspect expérientiel 3D, justement sortir de l'écran 2D, mais en même temps avoir un côté, mot qu'on emploie beaucoup maintenant avec l'IA, agentique, c'est-à-dire pouvoir effectivement agir sur ces univers numériques de manière beaucoup plus importante que on le fait finalement dans le contexte classique des réseaux sociaux, des sites web, des forums.
Justement, pourquoi on agit ? On agit parce qu'on acquiert des skills, on peut changer d'apparence, Ça, on le retrouve aussi dans l'univers des MMORPG, mais bien évidemment, ce qui est, je pense, le plus important et ce qui intéressait justement, je pense, Mark Zuckerberg, c'était la question des communautés et de comment ces métavers initiaux pouvaient rendre possibles ces nouvelles formes de sociabilité avant même que l'interopérabilité entre les réseaux soit possible, c'est-à-dire de pouvoir appartenir véritablement à une communauté.
La notion de communauté, elle a beaucoup de rigueur. Moi, juste pour situer d'où je parle quand même, j'ai beaucoup réfléchi à l'apport potentiel du métavers dans le contexte muséal. Donc, effectivement, avec cette notion d'univers 3D et d'avoir un espace qui prolonge en fait l'expérience muséale physique. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai abordé le métavers. Il est évident que la notion de communauté dans les musées, on la traite au quotidien. Et donc réfléchir à cette prolongation quand le musée est fermé, comment on peut continuer à faire parmi un musée et comment ces communautés peuvent se rencontrer au-delà des murs, ne serait-ce que d'ailleurs dans un contexte scolaire, pour la première extension logique, comment on pourrait faire ça. Donc, la construction des communautés, paradoxalement, nécessite de la chair. Et l'une des questions qu'on s'est beaucoup posée, c'est comment retrouver justement cette possibilité de pouvoir dialoguer dans ces nouveaux univers. Qu'est-ce qu'on allait raconter? Comment on allait le raconter? Qu'est-ce qu'on allait faire passer comme idée ici? Puisque c'est toujours un dialogue entre une institution et ses communautés. Et ça, c'est finalement pour moi, si on parle de flop, l'un des échecs du musée métavers. C'est que cette réflexion-là, elle n'a pas été aboutie et qu'on a uniquement pensé le métavers musée comme une reproduction d'un jumeau numérique du musée physique. Ce qui était peut-être finalement la pire des choses. Voilà. C'est qu'on a contraint d'emblée la manière de penser le musée dans des univers numériques. Et je n'en veux pour preuve que...
Est-ce que vous pourriez nous faire un exemple, partager un exemple
Dans Second Life, l'un des musées qui avait le mieux marché était le Louvre, mais absolument pas piloté par le Louvre lui-même. C'était un particulier qui avait créé le Louvre, ce qu'il appelait le Louvre à l'époque. Il y a eu un procès d'ailleurs. Par exemple, on pouvait voler d'une œuvre à l'autre. Et on pouvait y apporter sa propre œuvre à côté d'un Léonard de Vinci ou d'un Raphaël. Donc il y avait des choses très étonnantes dans la manière dont en fait, les particuliers avaient investi ces lieux-là. Et finalement, le musée, lui, l'a repensé de manière presque coercitive et contraignante. Très proche finalement de presque je dirais la manière dont on vit le musée physique. Voilà. Et c'est là où il y a eu un hiatus et c'est les raisons pour lesquelles entre autres il y a eu beaucoup de mal dans cette deuxième génération de métavers à créer des expériences qui ont accroché. Aucun musée n'a été présent dans le sandbox, quelques galeries ont été présentes dans des Decentraland, mais pas de musée. Les seuls musées qui se sont approchés finalement de ces expériences continues, c'est les musées anglo-saxons, avec la National Gallery à Londres, avec le Met de New York et le Science Boston Museum, qui ont tous les trois créé des expériences dans Roblox. Et c'est les seuls qui persistent à ce jour. Il y a eu quelques initiatives dans Fortnite, mais très très ponctuelles. Et les trois qui persistent à ce jour, avec quand même 7,4 millions de visiteurs sur le Boston Museum dans Roblox depuis 3 ans maintenant, 4 ans. C'est quand même assez impressionnant. Mais il y a une très très forte dynamique de la part du musée qui s'est éloignée justement de la reproduction de son entité physique complètement et qui a travailler la notion de communauté de manière extrêmement poussée, en renouvelant des expériences additionnelles. Et la dernière date d'avril 2026, donc on ne peut pas être plus récent.
Donc justement, on dit aller au-delà, cette accélération qui était évidente et nécessaire, qui est arrivée en 2020 avec le fait que tout le monde était, le Covid, les musées et tous les acteurs de la culture ont dû franchir ce pas, le pas de la numérisation. Tu parles très bien de non-reproduction à l'identique de ce qui existe, et c'est peut-être là qu'aujourd'hui nous avons deux belles entreprises françaises qui représentent un petit peu cette singularité, cette idée de pouvoir extérieur et lucid reality, de pouvoir aller au-delà, ce qui est propre au méta, l'idée du méta. Je voulais justement passer la parole à Catherine Seyss avec Escurio, nous parler par exemple de cette expérience que j'ai fait avec mon fils, justement des mondes disparus, et qui est une expérience très singulière, mais aussi raccrochée à une implication très très forte de la communauté scientifique et des chercheurs qui font partie du Muséum du Star Naturel. Est-ce que vous pourriez nous partager?
Oui, bien sûr. En effet, Monde disparu, c'est une des expéditions immersives d'Excurio. Et donc, on l'a faite en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, avec une soixantaine de paléontologues, parce que c'est une expédition immersive qui vous emmène à travers plus d'une dizaine de paléopaysages différents. Donc, pour chaque paléopaysage, on a travaillé avec les spécialistes, les spécialistes sur cette période-là précisément. On a d'autres exemples. Je trouve que l'exemple des impressionnistes à Orsay est aussi un bon exemple d'une manière, parce qu'il y en a certainement des milliers, de ne pas reproduire le musée à l'identique. Et ce qui était intéressant dans Un soir avec les impressionnistes, c'est que l'expédition immersive, elle était présentée au musée d'Orsay en même temps que la grande exposition 1874, qui fêtait donc les 150 ans de l'impressionnisme à Paris. Et donc, c'était pas du tout, et c'était présenté au musée, donc pas du tout présenté comme une concurrence ou même une prolongation hors les murs du musée, mais bien une expérience complémentaire de la visite de l'expo tangible, si je puis dire, avec les vraies œuvres. Et en effet, je pense que c'est un lieu commun, mais la réalité virtuelle, elle permet de voyager dans le temps et de voyager dans l'espace. En effet, de rencontrer des artistes, on en parlait dans l'introduction, et donc dans cette expérience-là, on échange avec Monet ou avec Renoir, qui nous présentent eux-mêmes leurs œuvres. Toi aussi, tu pourrais en parler,
de Monet.
Alexandre, parce que vous avez aussi travaillé chez toi sur des artistes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça procède au fond, et... on n'a pas du tout réfléchi comme ça, nous, au départ, mais ça procède de plusieurs degrés, je pense, de légitimation. Il y a une légitimation, c'est celle à laquelle vous faites allusion, du contenu en travaillant avec des experts scientifiques. Et ça, c'est très important, en tout cas, dans l'approche que nous, on a. Il y a d'autres studios de réalité virtuelle qui peuvent avoir des approches différentes, mais on travaille toujours avec des institutions, pour Khéops, c'est avec Harvard, etc. Ça, c'est la légitimité sur le contenu, mais il y a aussi une légitimité à trouver sur la diffusion. Et là, jusqu'à récemment, en tout cas, l'approche que nous, on a prise de façon tout à fait empirique, c'est de lancer justement nos premières expéditions immersives dans des institutions culturelles. Donc la première, elle a été lancée à l'Institut du Monde Arabe, et elle a été portée par le fait que c'était une vraie institution reconnue, donc c'était autour de Khéops. On a lancé les impressionnistes à Orsay, Monde disparu au Muséum d'histoire naturelle. Et donc ensuite, même si ce sont des expéditions immersives qui, bien sûr, vivent leur vie et continuent à vivre leur vie partout dans le monde et en dehors des institutions, la diffusion a été légitimée par les institutions culturelles. Je pense qu'il y a un troisième niveau de légitimation qui est celui de l'usage. Parce que très souvent, pour les visiteurs, et c'est d'autant plus vrai dans les institutions culturelles, c'est la première fois qu'ils font de la réalité virtuelle. Et donc, il y a à la fois tout un travail de réflexion sur le design pour que ce soit très simple et très naturel une fois qu'on a le casque. Et notamment, nous, notre choix, c'est de se déplacer très naturellement, en fait, simplement en marchant dans des environnements 3D qui sont calculés en temps réel et qui sont en trois dimensions. Et donc, notamment, on a retiré, par exemple, la manette qui permet de se déplacer via la canne à pêche et qui n'est pas forcément aussi simple d'utilisation. Et puis il y a tout un travail sur le staff qui nous accompagne, qui explique comment, comment se mouvoir là-dedans. Et puis le dernier stade, je pense, de légitimation, et il est quand même important pour nous qui sommes un acteur privé, c'est le business model. C'est que grâce à la techno qui permet de mettre autant de monde en même temps en déambulation libre dans une grande salle, on permet une réplicabilité, pardon, parce qu'on est capable de trouver une profitabilité économique. Donc, je suis désolée, j'étais un peu longue.
Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'expérience aussi de Lucid Reality qui a décidé justement d'aller au-delà de cette question d'un one-shot de collaboration, de coopération avec un musée et en faire une véritable collection. Une collection que j'ai à cœur à chaque fois de définir. En fait, il y a des studios français qui sont pour moi une sorte de nouvelle vague de la réalité virtuelle.
Je pense que déjà, le point commun qu'on a avec X-Curio chez Lucid Reality, c'est qu'on a tout de suite, on a commencé vraiment à produire des œuvres en réalité virtuelle, et je dis bien des œuvres. Ce qui est important, et ce qui est un point que je vais souligner juste après. Dès 2017, enfin même la première expérience qui a été produite par la fondatrice de Lucid Reality, c'était The Enemy, c'était une expérience sur trois conflits dans le monde, où on allait à la rencontre de combattants issus de trois conflits, et ces expériences-là ont été montrées dans des lieux de culture. On a choisi déjà une stratégie de développement qui a été très orientée vers les musées. Pourquoi ? Parce que nous, on partait du principe que ces expériences-là nécessitent un onboarding, en fait, une mise en condition, et que les lieux de culture étaient déjà des endroits où on allait pour vivre une expérience. Quand on va vivre une exposition, on sait très bien qu'on va vivre un moment à part. Et l'idée que ces expériences-là soient visibles dans ces lieux-là nous paraissait totalement légitime et cohérent. Après, il y a eu bien sûr la stratégie de coproduire avec ces musées, de co-construire avec les équipes curatoriales, avec les scientifiques, avec les commissaires d'exposition, pour légitimer nos productions, pour labelliser nos productions et les exporter plus facilement à l'international. Parce qu'il faut considérer, nous on travaille vraiment comme des producteurs, c'est-à-dire qu'un producteur prend le risque de produire ses œuvres, ses projets. Et donc, financièrement, c'est nous qui prenons le risque, c'est nous qui portons le projet, le risque financier, qui choisissons d'impliquer nos équipes. Voilà. Et donc, le retour sur investissement, il ne se fait pas à la première exposition, il se fait que s'il y a une tournée et plusieurs lieux qui l'accueillent. Donc déjà, c'était cette stratégie marketing et de distribution. Et puis, je pense que si on revient au sujet de la conférence, c'est pourquoi le métaverse est un flop. Parce que peut-être qu'il arrivait à un moment qui n'était pas le moment auquel il devait arriver. Déjà parce que la technologie n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez dit en préambule, ça a été porté par une entreprise qui n'était pas très ouverte à la coproduction, ou en tout cas qui n'a pas laissé les studios, les producteurs, les créateurs s'emparer de cette technologie-là. Et puis je pense que quand même, et c'est pour ça que j'insiste sur la notion d'œuvre, ce qui a été vraiment le principal flop, c'est qu'on a vendu la technologie et l'usage avant de vendre le contenu. Et du coup, et je ne parle pas que du contenu culturel, ça peut être le contenu culturel que nous faisons, c'est-à-dire travailler sur des œuvres, on va dire, narratives, mais même la musique. Le MetaQuest, il a été vendu principalement sans écouteurs, alors que le son binaural, c'est un véhicule d'immersion incroyable. Et de là, en fait, déjà, on peut dire que l'industrie musicale, c'est un peu tourné le dos au Quest, parce que finalement, l'expérience musicale n'était pas optimale. Mais au-delà de ça, finalement, le principal, pour moi, usage qui a été très important des casques VR, et je pense le plus utilisé, ça a été dans l'industrie. L'industrie s'est totalement emparée de ces casques-là pour faire de la formation, de la simulation, et que finalement, sur la création en tant que telle, Meta a lancé tout au début des initiatives qui étaient super intéressantes, où ils ont coproduit des films, notamment Allumette, The Wolf in the Wall, qui étaient vraiment des œuvres majeures dans l'histoire de la réalité virtuelle. Mais finalement, après, ils sont totalement écartés de la création pour vraiment mettre l'accent sur l'usage. Mais l'usage sans création, c'est comme le cinéma sans film. En fait, ça n'a aucun sens. Et idem pour, finalement, les meilleurs exemples qu'on a sur les métaverses sont dans le jeu vidéo, mais parce que le jeu vidéo, il a créé sa communauté autour du jeu vidéo, il n'a pas créé sa communauté autour du métaverse. Et donc là, de là, en partant de ce principe-là, si le contenu n'est pas assez, ne fédère pas assez de communauté, en fait, le métaverse ne pourra jamais marcher, parce que sur quoi échanger ? C'est comme sur une fiction, j'ai souvent cette... Au début de notre conversation, je regardais sur mon téléphone parce que je cherchais une série anglaise qui était sortie au moment du Covid, et il y avait une communauté qui s'était mise en place, une série sur les adolescents, et j'arrive pas à retrouver le nom, une romance autour d'adolescents qui était incroyable, et il y avait une communauté qui s'était créée pendant le Covid, incroyable en Angleterre, autour de cette série, et parce que la série était une proposition créative incroyable, et cette communauté découlait de cette proposition créative. Et je pense que voilà, le principal flop qu'il y a eu dans l'histoire du métaverse, c'est qu'on n'a pas mis, on n'a pas ouvert assez les technologies aux créateurs, on n'a pas mis en avant assez la création, et qu'on a tout, on a privilégié l'usage, alors que voilà, l'usage sans moteur, ça n'a aucun sens.
C'est vrai. Et ça me vient tout de suite à l'exemple de faire appel aussi à cette communauté pour faire évoluer les contenus. Hein. Un très bon exemple français qui s'est inspiré du transmédia japonais, c'est sans doute Ankama, qui a été très très à l'écoute du retour du crowdsourcing et d'écouter justement cette communauté qui pouvait faire évoluer. Ben alors, je me retourne vers Elisabeth et savoir est-ce que les CMUSÉES sont prêts à ces évolutions technologiques ? Parce que je sais, on en a discuté tout à l'heure, vous êtes là, vous les formez en entreprise, vous essayez de les accompagner dans toutes ces transitions.
Oui. Je voudrais juste revenir sur un point moi, qui me paraît important, c'est tout à l'heure vous avez mentionné le fait que maintenant le mot métavers n'est plus utilisé et qu'il y a une espèce de brouillard entre les frontières de la XR pure et dure, du métavers tel qu'il est, il était défini, persistant et autres. Moi je me place plus, on va dire, dans cette vision initiale. Et dans cette vision initiale, là où je vous rejoins, effectivement, c'est qu'on a d'abord pensé technologie avant de penser, en fait, la personne et son besoin. Et le fait, tout bêtement, par exemple, que quand elle rentrait dans ces univers-là, elle soit reconnue et qu'il y ait une continuité d'expérience. C'est typiquement ce que les gamins viennent chercher dans Roblox. Quand vous avez gagné vos skins, que vous avez gagné vos éléments, que vous êtes arrivé à un stade élevé, c'est ça qui vous fait reconnaître de vos pairs. Et ça, c'est une des choses que les musées n'avaient pas fait. La deuxième chose, pour moi, c'était la conversation. Et je me souviens, j'entraînais des étudiants à créer sur Spatial leurs propres univers numériques. Et dès qu'ils se retrouvaient face à un japonais dans Spatial, ils étaient paniqués parce que qu'est-ce que je dois l'utiliser comme langue, et ainsi de suite. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que justement ça va aboutir sur les technologies que nous avons dans les mains maintenant. La troisième, c'est justement aussi pourquoi je reviens, pourquoi je vais une première fois dans un espace numérique, et qu'est-ce qui me ferait revenir une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et comment j'additionne un savoir, une expérience, comment j'agrandis ma communauté, donc comment finalement je construis une vie dans ces univers-là. Et la quatrième chose, c'est comment je participe à construire ces univers-là. Et tout ça, en fait, a totalement été négligé, pour moi, dans la première phase. On connectait les gens, on les drivait dans un espace assez clos et contraint, et puis on leur disait au revoir, et puis ça s'arrêtait là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut repenser, pour moi, dans cette nouvelle génération potentielle d'univers. Et là où il y a cette technologie quand même assez puissante qui potentiellement va pouvoir me permettre d'élargir les possibles, ben, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que alors, la reconnaissance, elle existait déjà dans les vrais métavers, les spatiales, le sandbox, les centrales, ou même Roblox. Par contre, les trois autres, elles en vont être amplifiées énormément avec l'intelligence artificielle, ne serait-ce que la traduction. Quand on regarde Roblox actuellement, vous avez 53 langues possibles de traduction en temps réel, ce qui est absolument fabuleux. Donc la notion de communauté, pour le coup, elle prend du sens. Quand vous pouvez interagir avec votre voisin sans problème, ça a vraiment du sens. Vous pouvez également créer des quêtes, même créer des personnages. L'un des échecs aussi pour moi des métavers muséaux, c'est que vous rentriez et qu'ils étaient vides. Pourquoi en fait la XR physique a marché, c'est parce que vous venez à 4-5 et que donc déjà votre plaisir de démarche de découvrir quelque chose, vous étiez déjà en groupe. Quand on rentrait dans ces univers-là, il n'y avait personne. Or, avec des PNJ qui maintenant peuvent être activés avec l'intelligence artificielle, même là aussi en temps réel, et s'adapter potentiellement de manière extrêmement personnalisée à la personne qui rentre dans cet univers, va ouvrir un champ des possibles. Et on le voit déjà dans le jeu vidéo, ça arrive, potentiellement dans des univers muséaux derrière. Et la quatrième étape, c'est le fait de pouvoir co-créer, co-produire. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, on est en train de numériser, avec là aussi des nouvelles technologies apportées par l'IA, la technologie 3D, qui était extrêmement complexe avant, est littéralement en train d'exploser. Et les musées s'y précipitent beaucoup très très récemment, donc ça va ouvrir des possibles là-dessus. Mais en revanche, je terminerai peut-être par ça, c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire que si on travaille avec ces outils-là en termes d'IA, on va avoir des nécessités de... alors, j'aime pas le mot contrôler, mais modérer certaines conversations. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont rentrer aussi dans la pratique de ces univers-là. Si je regarde mon idée. Si, par exemple, j'utilise l'IA pour recomposer un bout de vague grecque qui aurait été cassé avec ma propre imagination, il va falloir qu'il y ait aussi des vrais conservateurs, ou en tout cas des PNJ de. Enfin, des avatars de conservateurs qui soient capables de dire « Ah non, là, tu es en train de te tromper pour telle et telle et telle raison » et donc apporter un savoir complémentaire tout en laissant, en fait, les gens agir dans un premier temps très spontanément grâce, justement, à l'aide de ces nouvelles technologies dont ils vont s'emparer assez aisément et naturellement. Et la dernière chose, c'est comment, justement, on va construire un savoir commun. Faire les distinguos, parce qu'on sait aussi que les LLM, enfin les Large Language Models, ont le problème des hallucinations, donc la capacité de produire des choses qui sont fausses, comment on va signaler ça immédiatement, que ce soit la parole d'un PNJ, que ce soit ce qu'aurait produit un utilisateur, enfin, ou un avatar dans ces univers-là, comment on va contrôler le résultat, comment on va distinguer le vrai du faux. Donc c'est à la fois des perspectives extraordinaires qui potentiellement pourrait s'ouvrir, mais en même temps beaucoup de responsabilités et une réinvention des métiers et une coordination des métiers qu'il va falloir aussi repenser.
Et à ça, j'ai envie de vous ajouter en plus une question qui n'est pas de moindre, c'est la question des data et de la souveraineté de toutes ces données qu'on livre à l'intérieur. C'est peut-être de ça dont ont peur, justement, on en discutait tout à l'heure, les conservateurs des musées, et voilà, même si on pense à une opportunité dans la conservation préventive, le fait de numériser des œuvres, néanmoins, aujourd'hui, la question de la souveraineté est là, c'est-à-dire que c'est...
Mais paradoxalement, en fait, données... l'IA ne fait que continuer les conversations qu'on avait eues précédemment. Président Macron avait pensé un métavers européen. On avait dit on va créer un métavers européen. En fait, on est en train de penser la même chose côté computing européen. Donc, on a toujours la même problématique. En fait, ce n'est qu'une continuité des choses, mais les questions restent présentes. C'est vrai que la souveraineté est un vrai sujet. Quand on voit que tous nos enfants, même nous-mêmes, les adultes, avons largement contribué à Pokémon, et que toutes nos photos servent maintenant à entraîner des robots livreurs, sans qu'on vous ait demandé notre avis, il est évident qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Et pour québécois, ce sont plutôt des anglo-saxons qui sont allés dans Roblox, au-delà du fait que la France, en termes de pratique, effectivement, les jeunes français sont moins adeptes de Roblox, c'est parce que il y a quand même une adéquation intellectuelle, on va dire, beaucoup plus aisée entre les musées anglo-saxons et la Silicon Valley que nous, français ou francophones, avec ces univers-là. Donc, c'est plus, on a toujours cette espèce de frein qui persiste. Quoique, j'ai vu que Orsay se lance dans d'ailleurs un nouvel hackathon financé par l'Europe, justement pour réfléchir à de nouvelles expériences. Là, c'est en cours. De nouvelles expériences, justement, dans Roblox, comment repenser le musée dans des univers les plus proches de ce qu'on pourrait appeler l'ancien métavers.
Étant en contact avec plusieurs institutions américaines, ils ne sont pas quand même très ouverts à l'immersif, ni aux nouvelles technologies, étonnamment. Pourtant, on a quand même, en tout cas à Paris, je ne sais plus combien, j'avais compté en fin d'année 2025, d'expériences immersives qu'il y avait dans les musées, mais on était à une dizaine rien qu'à Paris, alors qu'aux États-Unis, on commence à avoir de plus en plus, mais ce n'est pas automatique. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais par rapport à l'Asie, par exemple, ça n'a rien à voir.
Tout à fait, oui, on a la même expérience. Par ailleurs, si vous me permettez, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez, je trouve que c'est... ce qui me frappe en écoutant ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'au fond, on est en train de dire le métavers, c'était un échec, notamment parce qu'on a cherché, au fond, à créer des besoins pour combler ceux de méta. Et avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de faire la même chose pour combler les besoins peut-être d'OpenAI cette fois, dont on voit que les investissements se comptent en centaines de milliards d'euros, alors que pour le moment, on est sur pas du tout de chiffre d'affaires, je crois qu'ils font 20 milliards. Et donc je me dis, c'est intéressant aussi de se poser la question de dans quelle mesure vraiment on cherche à fabriquer des besoins pour répondre en réalité aux besoins, et d'ailleurs y compris aux besoins de collecte de données, pour fabriquer somme toute une forme de revenu ultérieur pour ces grosses plateformes américaines, et en même temps, en effet, ne pas passer à côté d'opportunités qui sont indubitablement là. En tout cas, pour donner un exemple par rapport à ce que vous disiez, nous, chez Excurio, à nouveau dans un soir avec les impressionnistes, on a utilisé certaines technologies d'intelligence artificielle pour fabriquer l'expérience, typiquement comme vous le mentionniez, c'est-à-dire que dans une des scènes d'un soir avec les impressionnistes, le visiteur est plongé dans le salon, le vrai salon officiel de 1866, donc avant celui de 1874 auquel les impressionnistes n'avaient pas été conviés, et c'est un salon qui rassemblait plusieurs milliers d'œuvres. Or, il n'y avait pas de catalogue, et donc, à part certaines, dont l'Olympia de Manet, on ne savait pas exactement, les conservatrices du musée d'Orsay ne savaient pas exactement quelles étaient toutes les œuvres présentées, et donc on a généré à partir de modèles IA des tas d'œuvres qui auraient pu être présentées en 1866 en leur donnant un certain nombre de consignes, et on en a généré comme ça des milliers et des milliers, et les conservatrices les ont regardées et triées en disant ça c'est beaucoup trop 1868, ça beaucoup trop 1864, et donc avec nos artistes internes, elles ont comme ça aidé à converger pour que ce salon de 1866 soit peuplé d'œuvres cohérentes avec la période.
Moi, j'avais une question pour revenir, on l'a évoqué au départ, la question du modèle économique. Vous avez évoqué l'idée de la réplicabilité. Pourquoi on referait, par exemple, l'expérience des mondes disparus? Moi, je l'ai fait deux fois, je n'ai pas vécu la même expérience, mais voilà, l'idée de la réplicabilité et l'idée que, là, je mets un petit peu le doigt sur la difficulté aussi de l'investissement vis-à-vis de ces expériences. Nous, on a accompagné avec nous pour Lance Ballet Saoula Studio, et je sais que pour une expérience comme celle de Saoula, il faut presque 1,5 million, et que donc la rentabilité des tickets, on sait très bien que c'est peut-être la solution. mais c'est peut-être aussi de penser à la... non, pas l'interopérabilité, mais à faire voyager ces expériences à l'étranger. Il faut encore qu'il y ait un service de... comment on appelle ça, de exploitation des comme l'Universcience a, de faire voyager les expositions, comment on fait voyager les expériences virtuelles. Est-ce que vous y avez réfléchi, je pense notamment à Magellan ou à d'autres expériences que vous avez construites avec les musées?
Bien sûr, enfin, vous avez raison, et c'est au cœur du sujet. Alors, la réplicabilité individuelle, sans doute viendra-t-elle grâce à la gentilité, en effet, qui va permettre des expériences toujours renouvelées, toujours un peu différentes. Et celle qu'on est en train de préparer pour l'automne prochain, elle inclura déjà pas mal d'éléments qui vont dans ce sens-là. Mais par ailleurs, la réplicabilité, il faut aussi la penser, en effet, comme vous le disiez, en termes de territoire. Et nous, l'approche, ça a été d'emblée de se dire qu'il fallait susciter l'ouverture de lieux qui soient dédiés à la diffusion de ces expéditions immersives en réalité virtuelle. Et donc, c'est un peu toute proportion gardée, bien sûr, mais comme le cinéma... à sa création, c'est-à-dire qu'on fabrique des expéditions immersives, il faut des lieux pérennes qui vont diffuser des expéditions immersives. Et donc aujourd'hui, avec des partenaires différents dans les différents pays, on a ouvert quasiment 40 lieux qui sont des lieux pérennes.
Ah, des lieux fixes.
Oui. Qui sont des lieux fixes. Donc il y a effectivement ce qui se passe dans les institutions culturelles où là c'est par construction. Par période donnée, mais ensuite il y a tous ces lieux qui existent pour certains depuis plusieurs années maintenant et qui proposent en effet une notion de catalogue, d'où le sujet d'interopérabilité dont parlait Alexandre, et avec une techno qui est celle qu'on a développée qui permet d'exploiter plusieurs œuvres en même temps dans le même lieu. C'est-à-dire que dans un lieu donné, aujourd'hui, si vous allez sur l'un des lieux qu'on a ouvert avec notre techno, vous avez des visiteurs qui sont dans Khéops et d'autres qui sont dans les impressionnistes ou avec les dinosaures du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc ça aussi, ça contribue, parce qu'en fait, si on veut créer de la réplicabilité et créer un secteur et donc une viabilité économique, il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne puissent trouver une rentabilité économique. Non seulement, bien sûr, nous en tant que producteurs, nous en tant que créateurs de la techno, et puis nos partenaires en tant qu'exploitants et opérateurs.
Ah, je cherchais le mot itinérance.
Itinérance.
Oui. Itinérance. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la collection?
Oui. Bah, alors on s'est tout de suite dit que l'enjeu de distribution était central, que sans distribution, il n'y aurait plus de production. Et donc nous, on a vraiment dissocié nos deux sociétés. Donc on a une entité qui s'occupe que de la production, qui est Lucid Realities. On a une autre entité qui s'occupe que des enjeux de distribution, qui est Unframe Collection. Et Unframe Collection, aujourd'hui, on a 130 œuvres en réalité virtuelle dans le catalogue. L'idée étant de ne pas avoir le plus grand catalogue du monde, comme sur Steam ou Meta. Au contraire, d'avoir un catalogue qui est curaté, où notre équipe technique teste, où on est capable aussi d'accompagner les producteurs pour donner notre expérience de terrain, parce que l'idée aussi d'être distributeur, c'est d'avoir cette remontée de données du terrain, c'est-à-dire de travailler. Souvent on travaille avec le musée d'Orsay et avec la bibliothèque de Montélimar, et de là on a différentes problématiques qui nous sont remontées. On a aussi la nécessité de créer, et ça on le fait vraiment au jour le jour, des canaux de diffusion pérennes, ce que disait Catherine juste avant, on a besoin de pérenniser nos réseaux de distribution. Ça, c'est un enjeu très important. Mais on a besoin aussi de les diversifier. On doit aussi travailler vraiment sur des lieux importants, situés dans des métropoles. Mais aussi, moi, je pense que c'est un enjeu premier de la réalité virtuelle et de l'immersif au sens large, c'est d'aller sur les territoires isolés, dans les territoires isolés, parce que cette technologie-là peut voyager. Elle est très simple à voyager. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, donner un exemple de ce que mon équipe fait, on travaille avec les bibliothèques départementales, on crée des valises en réalité virtuelle qui vont circuler dans les toutes petites médiathèques et bibliothèques. Alors ça me rapporte zéro, mais c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on va se dire, on se dit, voilà, le public de demain qui va tester nos expériences, ça va être vraiment un public qui va être aussi dans des petits villages, et qui vont pouvoir découvrir ces œuvres-là parce qu'elles sont formidables, elles créent de l'impact, elles créent du sens, et ça c'est très important, et c'est pour ça qu'on a agrégé, on a construit un catalogue pour être en capacité d'amener des contenus renouvelés chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, et d'être en capacité de vraiment de donner des contenus frais à ces relais locaux qui sont un peu notre connexion avec le public. Nous, on n'est jamais en... On est du B2B2C, on dit, on n'est jamais, nous, en, en lien direct avec le consommateur et le visiteur final, mais par contre, on a construit ce catalogue pour ces réseaux. Au-delà de ça, on n'est pas que des producteurs de contenu, et ça, c'est aussi l'enjeu d'un distributeur, c'est aussi d'être fournisseur de solutions, ce qui est aussi Excurio. Au-delà de ce que vous voyez dans le casque, derrière, il y a beaucoup de développement d'outils. Et nous aussi, on a développé nos outils. Ça va être de la galerie simple, c'est-à-dire on arrive dans une galerie en réalité virtuelle et via cette galerie-là, on va accéder à différents contenus. On pense notamment autour de l'IA à mettre des agents conversationnels qui vont pouvoir aussi amener des contenus, de l'information complémentaire à des expériences vécues, après avoir vécu des expériences. Et ça, ça ouvre des champs des possibles assez intéressants. Et bien sûr qu'un enjeu important, et ça, ça va être côté production, et c'est ce que nous remontons du terrain, ça va être en capacité de produire pour tout type de casque de réalité virtuelle, de lever ces barrières technologiques, parce qu'à l'époque, beaucoup de producteurs ont produit pour Meta. Aujourd'hui, il s'avère que Meta n'est pas forcément la meilleure solution sur le marché. Il y a Pico en Chine, HTC en Taïwan et d'autres. Et donc, l'interopérabilité de tous ces contenus aux différents casques, aux différentes plateformes sur le marché est un enjeu vraiment important pour faire en sorte que ces œuvres rayonnent le plus largement possible.
Je rebondirai totalement là-dessus. Je rebondirai sur deux choses. Pourquoi le succès, je vous disais 7,34 millions d'utilisateurs sur l'expérience Mission to Mars du Boston Museum? C'est parce qu'en fait, il y a une cohérence complète de leur programme éducatif entre les collections du musée, ce qui est fait dans l'éducatif auprès des professeurs sur toutes les classes américaines, et ce que l'on peut voir et ce que l'on peut faire comme expérience pour comprendre Mars dans le jeu lui-même. Et cette continuité, elle est hyper importante, et c'est un peu la continuité que vous faites d'une autre manière, en disant effectivement, le musée, certes, il est à Orsay, mais il peut être ailleurs, et comment il peut être ailleurs. Donc, ça, c'est une démarche en fait, qu'il faut beaucoup penser en amont. Et la deuxième chose, c'est sur, et je rebondis sur votre troisième point, c'est la conservation de tout ça. Moi, je le vois depuis 4 ans, j'ai beaucoup expérimenté les outils. J'ai systématiquement, réflexe muséal, archivé toutes mes premières productions. C'est-à-dire qu'on voit avec Sora d'OpenAI, ça a duré 4 mois, ça a été fermé du jour au lendemain, tous les gens qui ont créé dessus, leur avatar et tout ça, poubelle, merci, au revoir. Ça rejoint d'ailleurs le problème d'Internet Archive aussi, qui est en train de disparaître. La fondation n'a pas les sous pour pouvoir entretenir. Et on sait que c'est une des problématiques du numérique. Or, c'est extrêmement dommage parce qu'il y a des trésors et la continuité. C'est la Tate qui a une extraordinaire réflexion justement sur tous les artistes qui travaillent avec le numérique. Ils leur font signer. Donc, il y a une collection à base de numérique qui rentre à la Tate moderne. C'est la capacité de pouvoir la transférer sur la technologie à venir. C'est inscrit dans le contrat. Et c'est quelque chose qui est... Alors, pour certains artistes, ils survivent, mais sachant que donc leur œuvre aura une fin. mais je trouve qu'elle va introduire cette idée-là, sachant qu'il y aura en plus forcément une modification de l'œil, de la qualité chromatique, de plein de choses. Donc il y a une incidence aussi sur la création. Mais cette potentialité de pouvoir faire, c'est ce que fait la BNF avec, en conservant les jeux vidéo, de A à Z, on est rare au monde à conserver la totalité et pouvoir encore y jouer des jeux qui datent de 1990. Et on vient du monde entier, les chercheurs viennent dans le monde entier pour ça, parce qu'on est rare à faire ça. Donc il y a une vraie problématique aussi de la conservation du numérique et des ex expériences, comment elles vont continuer à vivre. Donc ça rejoint notre troisième point sur la mort du métavers, mais dans le sens physique du terme, presque paradoxalement.
Alors avant de donner la parole au public, je voulais peut-être vous poser une comme le métal, voilà, ça nous projette au-delà. Quelle serait la prochaine étape pour vous, sans parler forcément de IA ou de technologie, quel est votre désir le plus secret? Qu'est-ce que vous projectez sur la prochaine étape? Je vais répondre. Qui veut se lancer, Catherine?
Nous, la vision, elle est assez claire, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, mais on voudrait vraiment faire des expositions immersives une nouvelle forme de divertissement comme l'est le cinéma aujourd'hui. Et que demain, peut-être après-demain, les expositions immersives, elles soient aussi communes et faciles d'accès dans nos vies. Toutes les expéditions immersives, enfin toutes les œuvres en réalité virtuelle de manière générale, elle soit vraiment ancrée comme une nouvelle manière d'expérimenter la culture ou le divertissement. Et donc, le pas qu'on fait là-dedans, c'est depuis cette année d'ouvrir cette technologie qu'on a créée depuis plusieurs années à d'autres studios pour que justement on augmente et le catalogue et la diversité de ce qui est proposé et que ça nous aide aussi collectivement à faire croître le nombre de salles pérennes qui proposent des expériences en réalité virtuelle. Et je pense que pour certains acteurs comme Lucide ou nous côté Excurio, ça nous aidera à continuer à faire rayonner des œuvres culturelles et à produire ces continuités dont vous parlez, à faire sortir les œuvres de leurs institutions d'origine.
Oui, totalement. Et moi, ce qui est vraiment un objectif, et je pense que ce qui est l'essence même, je pense, derrière France 2030 et tout, oui, l'investissement que la France, l'Europe a engagé sur ces technologies-là, c'est d'avoir cette transversalité dans la création, c'est-à-dire que d'avoir de plus en plus de cinéastes, d'architectes, de musiciens qui, en fait, se disent qu'au moment de leur création, je n'ai pas de médium à proprement parler, je vais utiliser celui qui va être le plus adapté. Enfin, avant-hier, je ne sais pas si vous avez entendu, mais sur France Inter, il parlait de James Cameron qui va faire une expérience immersive sur Billie Eilish. Enfin, je trouve ça génial que des grands cinéastes s'intéressent au médium et puissent se dire que une œuvre peut être adaptable sur différents médiums si ça crée du sens, ça crée de l'impact. Et puis je pense que la prochaine étape, ça va être d'avoir cette faculté de vivre la même expérience depuis plusieurs pays. Et je trouve ça assez intéressant dans le monde dans lequel on vit. On se croit connecté, mais finalement, on voit quand même que les guerres persistent et au contraire se multiplient. Comment peut-être des expériences artistiques vont faire tomber les frontières et nous permettre de mieux comprendre la culture d'autrui. Ça, c'est quand même un objectif qui est propre à chacun et qui doit quand même être, je pense, endossé par les artistes avec qui nous travaillons et qui vont porter le marché, parce que voilà, le marché, ça peut pas être que des ingénieurs derrière des ordinateurs derrière Silicon Valley, c'est aussi des créateurs, et nous, en tout cas, on croit en ça, et c'est comme ça qu'a été construit le cinéma, et c'est comme ça que sera l'immersif, je pense.
Alors, c'est beaucoup plus utopique et beaucoup plus personnel. C'est que malheureusement, j'ai fini par me rendre complètement malade à force d'être dans les casques et je ne supporte plus. Donc je rêve de quelque chose qui me permette d'avoir cette sensation de 3D, mais débarrassée de toute contrainte physique. Voilà. Mais je pense qu'on n'y est pas loin quand même.
Ma lentille. Une lentille.
Eh bien, la parole est à vous, au public, à vous toutes et tous.
C'est très intéressant en fait. Ma question s'adresse à Alexandre Roux. Quand vous avez dit que en fait, ce que vous faites, l'objectif, c'est d'apporter effectivement la culture, toutes ces réalités urbaines, disons dans les territoires éloignés, les campagnes, etc. Des lieux assez désertiques sur le plan culturel. Sur un plan concret, comment est-ce que cela peut se matérialiser quand on sait qu'effectivement,
Non, ça coûte pas très cher, déjà d'une part, parce que je vais vous raconter pourquoi. Parce que dans notre catalogue, c'est des œuvres qui sont déjà produites. Donc déjà, vous n'avez pas le coût de production. Vous n'avez que le coût de la diffusion. Et les outils qu'on a développés, on a développé des outils qui se basent sur plusieurs métriques qui peuvent être prises en compte, et notamment du coût à la minute, ou pour des bibliothèques départementales avec lesquelles on travaille, on a des forfaits annuels. Alors je vous donne un exemple concret, par exemple on travaille avec les bibliothèques 64 qui ont 48 bibliothèques tout autour de, voilà, du 64 et qui vont en fait, ils ont créé 3 valises de 5 casques de réalité virtuelle qu'on a créé pour eux et avec des contenus préchargés dedans, ils ont 12 contenus, ils ont même 16 contenus et en fait dans ces valises là, ils vont les faire circuler dans des petites bibliothèques, dans des petites médiathèques de municipales et ils vont les bibliothécaires et les personnes qui travaillent dans ces médiathèques vont s'emparer de ces outils-là. Ils vont créer des programmations en fonction de leur temps fort, en fonction des commémorations. Et ça, nous aussi, on va leur fournir des outils pour événementialiser un petit peu ces programmations-là. Et ils vont vraiment s'approprier l'outil et le diffuser auprès de leur public. La bibliothèque 64 a acheté des droits annuels et a des droits illimités pour faire tourner ces valises-là tout autour de leur réseau. Au-delà de ça, nous, on travaille avec le musée Fabre de Montpellier, on travaille avec le musée Rodez de Soulages, on ne travaille pas qu'avec les grandes institutions muséales parisiennes. On est capable de vraiment de travailler sur des dispositifs très petits, 5 casques, ou très très grands. On a travaillé avec un musée d'art à Shanghai sur 70 casques. Et donc là aussi, ça va être notre capacité en tant que distributeur à adapter nos setups, on appelle ça nos dispositifs, en fonction du trafic, du nombre de visiteurs de ces lieux-là, et de faire en sorte qu'une expérience immersive puisse être proposée sur 2 casques, 1 casque, 6 casques, 8 casques, dans une bibliothèque, dans un petit musée, dans une école. Et là, l'avantage qu'on a par exemple par rapport à du mapping ou de la projection sur grande façade, c'est que nous, on a besoin d'un casque de réalité virtuelle avec des contenus dedans. Ce casque-là, vous pouvez le mettre dans une valise, dans un sac, et le faire circuler très, très facilement. Il peut être facilement duplicable si c'est une expérience qui se vise assise. À partir du moment où vous avez 10 sièges, vous pouvez mettre 10 casques, 10 utilisateurs. Et donc, on a cet avantage d'être, comme on dit, très adaptable aux différents dispositifs et aux différentes configurations. Et donc, voilà, ce que je vous dis, c'est qu'une expérience qui coûte 400 000 euros ou 500 000 euros à être produite, elle peut coûter que quelques centaines d'euros à être diffusée. Donc l'investissement n'est pas non plus énorme pour une institution.
Ça ne donne pas exactement la même expérience que si vous regardez, je ne sais pas s'il y a des impressionnistes dedans, mais si vous regardez dans une salle équipée, et en particulier, moi j'y pense à cause de votre mal au cœur voilà, du casque, c'est encore pire quand on est dans une expérience sans circulation.
En fait, il y a plusieurs types d'expériences. Il y a des expériences qu'on dit free roaming, donc avec déplacement libre dans un espace, et des expériences qu'on dit stand-alone, qui peuvent se vivre assises ou debout dans des espaces très réduits. Là, je ne parle que des expériences dites stand-alone, parce que des expériences dites free roaming, là, c'est sûr que l'investissement, il va être beaucoup plus important, juste en termes de dispositifs, en termes de trackers, etc. Mais nous, par exemple, chez Lucid Realities, on produit aussi des expériences free roaming, mais on est connu pour produire des expériences stand-alone, qui peuvent être vécues de la même manière au musée d'Orsay qu'à la bibliothèque de Montélimar. Ça sera la même. C'est juste que, voilà, ça ne sera pas... Non, ou interactive, mais qui ne nécessite pas de déplacement dans l'espace.
Oui, dans le cas d'Excurio et des expositions immersives, c'est sûr que du point de vue de la soutenabilité économique, nous, on a intérêt à avoir plutôt des salles où on peut mettre 130, 150 personnes en même temps, parce que c'est comme ça que les opérateurs réussissent à opérer sans perdre d'argent. Néanmoins, on se pose évidemment cette question-là aussi, et on est en train d'adapter d'une part. Alors nous, c'est vrai qu'on a pris le marché un peu, si je puis dire, par le haut, c'est-à-dire en commençant avec des productions qui sont très ambitieuses, 45 minutes, effectivement, free roaming et free roaming sur 1000 m², donc c'est c'est des grands espaces et beaucoup, beaucoup de flux. Là, on est en train, du coup, aussi, en parallèle, d'adapter un certain nombre de nos productions. Donc, on a plusieurs de nos productions maintenant qui existent en format plus court et qui, donc, peuvent se vivre sur des surfaces plus réduites, ce qui permet, effectivement, de ne pas avoir besoin... parce que nous, c'est vrai que dans les salles où nos expéditions sont opérées, en général, les opérateurs, ils ont entre 100 et 150 casques. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement de permettre à des opérateurs de réussir à trouver un modèle économique avec beaucoup moins de casques.
Oui, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur le topo général qui était fait au début. Je trouvais ça intéressant de mentionner en acte 3 à revenir dans le métaverse des articles, notamment un article qui nous dit, qui sort en 2026, l'utopie peuplée d'avatars, les univers virtuels tels qu'ils sont là, ont fleuri au tournant du 21e siècle et leur disparition a laissé des vestiges numériques. Alors, quand même, c'est extraordinaire qu'on découvre que ce monde-là existe toujours depuis 2008, il fonctionne toujours, il y a un certain nombre d'abonnés. Les médias n'ont pas intégré, ça c'est absolument clair. De la même manière, les solutions libres comme Open Simulator continuent d'exister, la même manière, ils ont 2024, ce qui est quand même un peu long, pour des métaverses persistants. Et donc, je voudrais juste savoir votre regard sur le projet de Meta, parce que le projet de Meta, vous n'êtes pas trop commenté, c'est un projet de prolongation de Facebook. C'est-à-dire que c'est un projet dans lequel on ne va pas se réinventer. On va avoir sa carte d'identité estampillée pour être un utilisateur traçable qui se projette avec son visage propre dans un monde soi-disant fantastique. Et donc on est complètement à l'opposé de la culture du métaverse à l'origine, qui était une culture plutôt fantasmatique.
Qui venait de Burning Man.
De Burning Man, c'est Et donc, moi, je veux quand même, parce que là, c'est très important, parce que vous êtes en train de poursuivre une expérience spectaculaire, ici, grand public, avec finalement un cadrage à l'extérieur. C'est le cadrage qui est fait par l'institution, par le fait de venir quelque part, d'avoir une attente d'expérience forte. Mais pour les métaverses à l'origine, une grande culture différente, et certaines étaient très coercitives, parce que voilà, les métas, on les connaît. Voilà, c'est juste ça. Enfin, je prends ma remarque là-dessus, mais je ne vais pas comprendre le débat, sinon, sur la mort de l'intérieur, c'est-à-dire la mort d'une future prison comportementale dans laquelle on serait juste nous-mêmes condamnés à être observés pour que l'on puisse prédire nos actions.
Qui souhaite réagir? Elisabeth.
Vous avez commencé le discours tout à l'heure en disant Meta a phagocyté complètement en fait, ce concept. Alors qu'il existait
déjà
parfaitement avant, très bien, et que finalement, l'expression la plus noble, on va dire, finalement, le Second Life l'avait relativement bien inventé. Ouais. Meta se l'est réapproprié, vous avez raison de le dire, dans quel contexte. Et l'une des raisons, et moi j'ai signalé, le Web 3 avait l'ambition justement de nous débarrasser des GAFAM. Ouais. Or, l'échec aussi du métaverse vient du fait que. Les GAFAM s'étant aperçus de ça, ils ont essayé de phagocyter le Web3. Donc l'échec, en fait, leur revient d'une certaine façon. Vous avez entièrement raison de souligner le fait qu'on ne pouvait pas, effectivement, dans Meta, choisir son avatar. Et moi, l'un des principes que j'imposais à mes étudiants, c'était vous êtes un homme, ben vous allez être une femme. Vous êtes de peau blanche, et ben vous allez choisir une peau colorée et vous allez voir le comportement des autres. Et c'était systématique. Et ils étaient très choqués par cette imposition de l'exercice. Et je leur disais, mais c'est ça en fait la véritable possibilité que peut ouvrir ces mondes-là, c'est d'être quelqu'un d'autre, et d'être même plusieurs, ce qu'on oublie aussi. Mais moi, ça ne me gêne pas finalement, et vous aviez raison de le dire, que Meta soit mort. Parce que ça a débarrassé, et ça nous redonne une sorte de liberté. Maintenant, il y a une réalité économique, on en revient toujours à la même chose, c'est que pour monter un vrai métavers, je crois que 200 box à signer pour le voir, c'est des millions. Et que ça, c'est quand même pas donné à... Voilà. Et même la communauté Mozilla, vous parliez, qui c'est qui s'en empare, ce sont les profs, souvent, qui avaient mis un pied dans ces univers-là, souvent dans le contexte du Covid, et qui continue de faire vivre dans les IA. Moi, j'en connais deux, trois qui sont très, très actifs sur le sujet avec leurs étudiants, mais c'est vrai que c'est pas non plus...
Et peut-être le flop, vous l'avez signalé vous-même, c'est que le flop, c'est peut-être l'échec de l'objet industriel de casque de réalité virtuelle pour tout le monde. Parce que maintenant, si vous collez là-dessus, en mode, vous allez tous avoir votre casque, casques, et puis être dans telle ou telle ville. En réalité, les casques, hormis des expériences de qualité comme celles que vous présentez, n'ont pas un grand intérêt à tous les gardes, si ce n'est de nous priver de mon environnement. Donc je pense que là-dessus, le flop est peut-être aussi sur, parce qu'il y a beaucoup d'idées sur le Quest, hein, et sur le fait qu'ils n'ont pas rendu le nombre de volumes, parce que derrière, les services auraient suivi. Hein,
il se rattrape sur les nouvelles lunettes, on va être heureux. Si je prends les jeux vidéo, il y a quand même de sacrées communautés de joueurs qui sont chez eux, enfermés, et qui ont un sentiment de communauté qui est extraordinaire.
Qui est très fort.
Il suffit de voir Twitch pour ça
aussi, éventuellement.
Avec un casque aussi.
Avec un casque, mais c'est pas le fait d'être chez soi et d'aller... heureusement, après le Covid, on est quand même, quoi que les générations moins, mais on est ressorti, donc on a moins ce besoin-là. Mais j'étais frappée, moi, parce que à l'occasion de ça, je suis pas tous les jours dans le Roblox et je suis retournée là. J'étais étonnée de voir effectivement qu'il y avait des gens qui le fréquentaient. Alors je le mets un peu moins, mais un peu moins de pub. Donc, il y avait des gamins qui jouaient et qui faisaient des expériences et qui se parlaient entre eux. Et qui, donc pour moi, c'est la notion de communauté qui a mal été. Totalement monsieur, c'est celle qui n'a pas été comprise par le musée. On a d'abord essayé de répondre à une panique, c'était mon musée est fermé, il faut faire un musée virtuel, je vais créer un musée virtuel. On dit, c'est ce que tu disais, comment on va former communauté à partir du moment où chacun vit sa propre expérience et qu'on n'est plus capable de se parler puisqu'on n'a pas vu la même chose. Et ça, c'est une vraie problématique pour moi à adresser dans le futur. Parce que, et plus largement d'ailleurs, pour répondre dans les réponses des LLM, vous posez une question à ChatGPT, il ne vous répond pas la même chose que votre voisin, avec la même question. Donc ça, c'est une vraie, vraie problématique qu'il faudrait envisager si on aborde ces sujets-là. Comment la personnalisation peut être intéressante, mais comment elle va à l'encontre aussi de ce qui fait communauté dans un monde.
Peut-être là-dessus, enfin, moi je ne prétends pas du tout avoir une réponse définitive à cette question qui est vaste, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça soulève au fond la question un peu de l'hybridation. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on cherche à faire en hybridant de la culture que Bourdieu aurait qualifiée de dominante avec une culture qui est celle du jeu vidéo, typiquement, dont vous parlez, et en créant des expériences. Qui se vivent un peu comme des jeux vidéo, mais avec des éléments de culture dite dominante. Et je trouve que c'est un des moyens, en tout cas, quand on parle de politique publique pour rendre la culture accessible, c'est un des moyens peut-être de le faire, enfin, à nouveau très modestement, il y en a plein d'autres. Mais je trouve que c'est la question de l'hybridation et de la compartimentation aussi, bien savoir... ce qu'on personnalise et ce qu'on ne personnalise pas pour faire comme nous.
Exactement. Ça rejoint les problématiques de métier qui doivent avancer.
Et ça rejoint les problématiques de comprendre ces enjeux-là pour former les futurs professionnels à pouvoir s'emparer de ces sujets-là et les adresser correctement. Tout à fait. Mais pour rebondir sur les datas, ça rejoint notre sujet. C'est-à-dire qu'on peut adopter une vision protectionniste de nos collections et de dire effectivement que nous n'allons pas les donner ou les ouvrir à ces grands modèles de langage qui les scrapent abondamment. Mais la contrepartie, il va falloir se poser comme question très très rapidement, c'est quelle représentativité nous allons avoir de nos propres cultures dans ces modèles qui sont déjà dominants puisqu'ils sont essentiellement anglophones dans leur modèle d'entraînement. Et encore, la langue française est relativement bien représentée, mais c'est une vraie problématique future sur laquelle les musées réfléchissent actuellement aussi.
Écoutez, je voudrais remercier, nous voudrions remercier chaleureusement nos quatre participants. Le cinquième nous a envoyé un message pour s'excuser, il a eu une contrainte de dernier moment, il n'a pas pu être là, mais merci beaucoup les trois, c'était très, enfin trois, avec Margarita, c'était vraiment formidable. Donc merci beaucoup à tous les quatre. Je voudrais aussi remercier d'abord Marjolaine Chut, parce que, Marjolaine Chut du CNAM, du musée des arts et métiers, parce que quand on est venu la voir, j'ai reçu avec cette idée un peu saugrenue de faire quelque chose sur le fleuve du métavers, malgré l'immense succès que rencontre cette exposition, parce qu'il faut vraiment bien le dire, c'est une exposition qui, où il y a un mot de fou, auquel vous ne vous attendiez pas, je crois. Au lieu de nous dire, bah, écoutez, vous passerez pour la prochaine, elle a accueilli l'idée avec beaucoup d'intérêt, elle a fait circuler, elle a convaincu les gens du musée, donc très sincèrement, merci, vous avez été une manière formidable, et vous allez, avec Jean-Baptiste Tell, nous faire visiter l'exposition maintenant. Donc,